Tous les dimanches de l'été de 10h à 11h, retrouvez une grande voix d'Europe 1 aujourd'hui, Charles Villeneuve, reçoit l'ancien entraîneur des Gunners, c'est Arsène Wenger.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1. 10h, 11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Arsène Wenger, le football est devenu un terrain de jeu géopolitique, c'est-à-dire un élément clé de ce qu'on appelle le soft power, la capacité d'influence à travers l'image qu'un pays véhicule. Le Qatar a changé son image avec le PSG, Abu Dhabi avec Manchester City, la Russie a tenté avec la Coupe du Monde de football en 2018, et vous avez sans doute vu que depuis lundi, Bahreïn, qui est une des îles des Émirats Arabes Unis, vient de prendre 20% du Paris Football Club, qui veut être le deuxième club de la capitale. Est-ce que vous partagez mon analyse, mon opinion, que le football est devenu maintenant un terrain de jeu géopolitique ?
Oui, c'est surtout devenu, à travers sa popularité, un enjeu de communication et d'image. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme image ? Et le football est peut-être aujourd'hui le véhicule le plus efficace pour véhiculer une image. Après, c'est vrai que c'est un enjeu géopolitique aussi, puisque comme il est populaire, chacun veut y avoir accès. C'est pour ça qu'il y a des alliances aujourd'hui même et des enjeux énormes pour avoir les grandes compétitions, puisque derrière tout cela, il y a évidemment beaucoup de tractations, beaucoup de négociations pour pouvoir attirer les grandes compétitions. Le football fait partie d'un grand enjeu aujourd'hui qui concerne la politique, c'est vrai.
Et l'économie ?
L'économie est toujours au départ. La loi est dictée par l'économie, parce que pour organiser une grande compétition, il faut en avoir les moyens. Et puis, que ce soit pour la langue ou que ce soit pour les grands joueurs, c'est toujours l'économie au départ qui dicte. Les grands joueurs sont comme par hasard là où il y a le plus d'argent. Et c'est une loi indéfectible. Et n'oublions pas que dans les années 90, c'est la France qui a attiré les plus grands joueurs. Moi, j'étais entraîneur à Monaco dans les années 87 à 94, 95. On attirait les meilleurs joueurs anglais. Parce qu'à l'époque, nous étions les premiers qui avions une télévision payante et que les Anglais n'en avaient pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nos joueurs émigrent vers l'Angleterre parce que la loi économique est en faveur de l'Angleterre.
Alors, vous avez abordé évidemment l'importance d'un acteur clé, l'argent. Mais si aujourd'hui, nous vous avons choisi pour ce grand entretien, Arsène Wenger, c'est parce que votre carrière vous a donné la connaissance du terrain, la maîtrise des mécanismes économiques, on va en parler, votre facilité pour les langues étrangères, la maîtrise des enjeux internationaux et publics du sport, et notamment du football. Alors, compte tenu de la place que vous occupez aujourd'hui, que vous avez occupée pendant 22 ans à Arsenal, vous avez littéralement construit l'Arsenal moderne, on verra ce qu'il en reste. Et puis, vous avez rappelé que vous étiez à Monaco, où vous avez quand même coaché des grands joueurs, Thierry Henry,
Thuram, Petit, il y en a énormément, oui, Wea, il y en avait énormément de oui. grands joueurs à Monaco.
Que vous avez formé d'ailleurs, que vous avez
aussi,
inspiré,
oui.
oui. Il ne faut pas l'oublier. Mais vous avez résisté, finalement, à ce que les Anglais disent de nous, les Français, les softies. Et pendant 22 ans, vous avez été admiré par la presse anglaise. Est-ce qu'on nous appelle toujours les softies, c'est-à-dire les mous ?
J'en sais rien. Je pense que tous les pays ont toujours tendance à s'attribuer des qualités supérieures aux autres. Mais je pense tout simplement que quand vous allez à l'étranger, vous avez la première responsabilité, c'est le discours que je tenais aux joueurs, c'est de vouloir en faire plus que les locaux. Si vous voulez faire autant qu'eux, restez à la maison. Ils n'ont pas besoin de vous. Et je pense que beaucoup de joueurs se développent aussi parce qu'ils ont soudain conscience qu'il faut qu'ils en fassent plus que ceux qui sont là, qui vivent localement. Ça vous donne une responsabilité supplémentaire et c'est là que j'ai essayé d'assumer. Après, un entraîneur, pour moi, j'ai voulu aller au bout de la mission de ce qu'est pour moi, je dis bien pour moi, un véritable entraîneur. Il a une influence à trois niveaux. La première, c'est qu'il peut influencer le cours de vie ou la carrière d'un joueur. Il a une influence sur le style de jeu et les résultats d'une équipe. Et il a une influence supplémentaire sur la dimension et la structure qu'il donne au club dans le développement du club sur un plan mondial. Moi, j'ai eu la chance, mais aussi le désir profond d'exercer mon métier sur les trois niveaux. Je suis aujourd'hui particulièrement content d'avoir su résister aux sirènes qui me proposaient des contrats beaucoup plus riches ailleurs et d'avoir fait mon métier jusqu'au bout dans ce qui me semblait toujours être le vrai métier d'entraîneur.
Et pourtant, vous avez résisté, vous dites, aux sirènes. Moi, j'ai vécu avec vous les propositions que vous faisiez le Real de Madrid. Vous avez résisté. Moi, j'étais intimement persuadé que vous alliez finalement plonger parce que le Real, ça reste l'un des clubs, au moins sur le plan de la réputation, l'un des premiers du monde.
C'est le plus grand club, pratiquement. Si vous prenez le palmarès du Real et lit son histoire, oui, on peut dire que c'est le plus grand club du monde.
Et évidemment, son budget, qui dépasse quasiment les budgets de tous les autres clubs, je crois qu'il se situe entre 800 et 900 millions d'euros aujourd'hui. Quand vous pensez que des clubs même comme Marseille fonctionne avec 120 millions, 130 millions.
Oui, on peut dire que des très 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 grands clubs, il y en a 3 ou 4 aujourd'hui, ils flirtent avec le milliard et s'il n'y avait pas eu le Covid, le Barça aurait été à 1,1 cette année.
Vous avez résisté aussi aux sirènes du Bayern.
Oui, de la Juventus. Comme je vous le disais, avec le recul, j'ai fait mon métier avec, évidemment, on recherche tous la réussite, la gloire, on veut des bons contrats, on veut gagner de l'argent. Mais j'ai eu le souci, et ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir voulu servir mon club. Et je pense que je suis allé au bout d'une mission qui était un peu au-delà de tout ce qui est succès immédiat, mais de laisser derrière moi quelque chose qui permettra au club de vivre sur le long terme et d'avoir une base de réussite potentielle sur le long terme.
C'est-à-dire que vous n'avez aucun regret ?
Je n'ai pas... Si le regret, c'est la distance entre ce que j'ai fait et ce que j'aurais voulu faire, oui, j'en ai, parce que j'aurais voulu faire mieux. On ne peut pas dire que dans une vie, vous réussissez tout ce que vous entreprenez, mais sur le désir philosophique de ma carrière, j'en ai aucun. Parce que je pense que j'ai vraiment fait mon métier avec la maîtrise totale dans mon club, ce qui est une vraie liberté, et que je l'ai exercé vraiment comme je pensais qu'il devait être.
Alors, Arsène, aujourd'hui, vous êtes l'un des boss de la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association.
Je suis responsable du développement du football dans le monde, oui.
C'est-à-dire sur quel point le développement, le jeu ?
Ben écoutez, j'ai une mission que j'ai entreprise aujourd'hui qui est à la fois de développer le football par les systèmes internet d'enseignement du foot, de créer un centre de recherche du football et puis de permettre aux pays qui ne sont pas développés de se développer. Et j'ai les moyens à ma disposition, j'ai le soutien total de la FIFA pour le faire. C'est une mission énorme. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, le football est le sport le plus populaire. Mais en gros, il n'y a qu'un seul continent où le football est structuré et développé. Et moi, je pense que la vraie responsabilité...
Et ce continent, c'est l'Europe.
C'est l'Europe. Et je pense que la vraie responsabilité de la FIFA est de donner une chance d'éducation par le football à tout le monde dans le monde entier. Peu importe où tu es né, tu dois avoir une chance de pouvoir te développer, de pouvoir prendre du plaisir à jouer, et si tu as du talent pour aller plus loin, de pouvoir aller plus loin. Ce n'est pas le cas actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de football structuré chez les jeunes. Et n'oublions pas qu'en même temps, nous sommes au départ d'un vrai développement du football féminin. La FIFA a d'ailleurs attribué 500 millions d'euros en plus pendant le Covid au football féminin pour le développer dans le monde entier. Et là, il y a une rareté de disponibilité des stades. Il faudra construire des pelouses pour pouvoir permettre que tout le monde joue les week-ends. Donc il y a un vrai problème à la fois de structure, mais aussi d'organisation des compétitions. Un garçon de 13 ans qui est né en Afrique a moins de chances de faire une carrière par le foot qu'un garçon de 13 ans qui est né en France. D'ailleurs, on le voit bien, la base de notre équipe de France et beaucoup de joueurs d'origine africaine, mais ils ont eu la chance d'avoir le système éducatif français.
Et ça ne change pas, au contraire, dans les centres de formation, on voit de plus en plus des joueurs d'origine africaine.
Non, mais
la
France bénéficie de l'immigration réussie au niveau du football, parce que on a un bon système de détection, on a un bon système de développement par le coaching des joueurs, et on a un bon système d'intégration dans les équipes premières, puisque dès qu'ils sont bons, ils partent à l'étranger. Donc ça ouvre les vannes pour ceux qui viennent en dessous.
Ferguson, je ne sais plus où j'ai lu ça, disait que les deux grandes réserves du football mondial aujourd'hui, c'est la France et le Brésil. Vous êtes
je suis plus dubitatif pour le Brésil, parce que je pense que le Brésil a beaucoup perdu. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les résultats du Brésil en Coupe du Monde, depuis 2002, où la Coupe du Monde a lieu au Japon et en Corée, ils n'ont gagné aucun match décisif contre une équipe européenne. Ni en 2006, ni en 2010 en Afrique du Sud, ni en 2014 chez eux, où ils ont pris une sacrée dérouillée contre les Allemands, ni en 2018, où ils ont encore perdu contre la Belgique. Donc, ça fait maintenant 18 ans qu'ils n'ont pas gagné un match à éliminatoire dans une confrontation de Coupe du Monde.
Alors, Arsène Wenger, on va voir ça pour quelles raisons dans quelques instants. On va marquer une pause publicitaire.
10h-11h sur Europe 1, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Arsène Wenger, vous disiez, en répondant à ma remarque, je citais Ferguson, l'un de vos admirateurs aujourd'hui, alors que ça a été l'un de vos concurrents les plus féroces.
C'est souvent comme ça.
Hein. Oui, mais c'est assez
étonnant. La rivalité se transforme en amitié quand la compétition n'est plus là.
C'est vrai. C'est vrai aussi avec Mourinho, l'entraîneur aujourd'hui de Tottenham.
Je ne peux pas dire que... Je pense qu'il y a un respect réciproque.
Alors, vous disiez que si la France est une des réserves du monde et fournit un nombre de jeunes joueurs dans toutes les capitales et les grands clubs européens, ça n'est plus le cas du Brésil. Pourquoi ? Comment vous expliquez ce phénomène ?
Parce que le football est beaucoup moins organisé qu'en France. La détection est faite de façon toujours un peu aléatoire et qu'elle est moins rationnelle qu'en France, et que le suivi des jeunes joueurs est beaucoup moins bien fait qu'en France. La France, à ce niveau-là, a de l'avance sur tout le monde.
Quelle est la position de la France sur l'échiquier international, maintenant que vous avez ce recul, directeur général du jeu pour la FIFA ?
Je pense que la France est certainement le meilleur réservoir au monde aujourd'hui de bons joueurs, parce que l'immigration profite beaucoup de l'immigration, profite beaucoup de notre structure de développement des jeunes joueurs. Mais la France a un handicap, et à travers la qualité des joueurs qu'elle forme, elle a une très forte équipe nationale. Par contre, le championnat français s'est affaibli, puisque dès qu'on ne peut pas garder nos meilleurs joueurs, et donc on s'affaiblit. Quand les joueurs arrivent à maturité, c'est à 23, 24 ans, ils partent à l'étranger. Et reviennent souvent ceux qui ne réussissent pas totalement à l'étranger, mais ça ne suffit pas pour on voit les résultats au niveau européen.
À l'exception d'un club.
À l'exception d'un club qui a les moyens des grands clubs anglais, puisque le budget du PSG est au-dessus de 500 millions d'euros. Donc entre 500 et 1 milliard, vous avez accès aux grands joueurs.
Alors on va en parler de ça, justement, de la politique du Paris Saint-Germain, parce que je remarque, et je reviendrai là-dessus, que parmi les meilleurs défenseurs du monde, on le voit à travers tous les grands clubs, aussi bien anglais qu'espagnol, et même italien maintenant, il y a les défenseurs français. Or, il n'y en a pas, finalement, au Paris Saint-Germain. Mais on verra cette politique de recrutement. Alors, dans quelques jours, va commencer finalement ce qui est la compétition la plus suivie au monde. C'est la Champions League, qui a adopté un format totalement inédit, ce qu'on appelle le Final 8, c'est-à-dire 8 clubs qui viennent se disputer en une semaine la compétition donc la plus prestigieuse du continent. Qu'est-ce que vous pensez de ce format ?
Je pense que c'est un format d'urgence à cause du Covid. On n'avait pas le temps nécessaire pour organiser la compétition en match aller-retour pour les quarts et demi. Donc, ils ont fait un format d'urgence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça augmente l'incertitude de prévision, qui, à mon avis, est accentuée par le fait qu'il n'y a aucune équipe en Europe qui domine l'Europe actuellement, comme ça a été le cas pendant des années, notamment avec le Barça. On pouvait prédire qu'il serait pratiquement inarrêtable.
Et le Real.
Oui. Le Real pendant 2-3 ans. Mais il n'y a aucune équipe qui domine l'Europe aujourd'hui. Ça augmente le côté imprévisible. On peut pratiquement résumer, ça se joue sur la semaine. Vous devenez champion d'Europe dans la semaine.
Sur un seul match, en plus.
Sur un seul match. Donc, il n'y a pas de but à l'extérieur, pas de but à domicile.
C'est très attractif, je trouve.
C'est très attractif, c'est très passionnant. Mais c'est aussi très aléatoire, parce que vous pouvez prendre un expulsé sur un match dans les premières 10 minutes, sur une glissade, et puis vous retrouvez en dehors de la compétition. Mais c'est un peu la formule Coupe du Monde. Vous jouez contre un adversaire sur terrain neutre, sur un match.
Mais est-ce que vous pensez que c'est un avenir au-delà de la crise sanitaire ?
Je vous dirais que c'est un avenir zéro, tout simplement pour ceux dont on parlait tout à l'heure, à cause de l'effet économique. Vous n'avez pas le match à domicile, vous n'avez pas le match aller-retour, donc vous perdez énormément de recettes et vos sponsors principaux veulent naturellement que vous jouiez à domicile et puis vous avez les recettes guichets, les recettes télé sur deux matchs et là vous avez les recettes sur un match.
Donc, j'ai bien compris, Arsène, ça n'a aucun avenir en réalité. Alors là, c'est la question évidemment que tout le monde se pose compte tenu notamment de la blessure de Mbappé dont on dit qu'il est 3 semaines invalide complètement, c'est quand même l'une des armes fatales du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous croyez que c'est jouable ?
En ce qui concerne le PSG, je dirais que pour moi, avec Manchester City, sur les chiffres que j'ai regardés depuis le début de saison, ils ont les meilleurs chiffres, à la fois d'occasions concédées à l'adversaire et de création d'occasions de but dans leur championnat. Donc, pour moi, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les deux favoris sur leur potentiel. Après, quand vous jouez sur un match contre l'Atlético Madrid ou contre l'Atalanta de Bergame, tout peut arriver. Mais ils ont quand même au départ une marge. Pour ce qui concerne la blessure d'Mbappé, moi je me veux optimiste. J'ai bien vu ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il jouera dans 3 semaines. Et je pense que lui aussi pense qu'il jouera. Parce que j'ai bien vu sa tête au fond de lui. Quelque chose me dit, j'ai l'habitude d'observer les athlètes de haut niveau quand ils sont vraiment gravement blessés. Je pense qu'il y a une forme de confiance qu'il a en l'observant bien. Et je suis pratiquement sûr qu'il jouera contre l'Atalanta de Bergame.
Et puis on ne l'a pas vu tellement boiter parce que ça fait très mal.
Honnêtement, pour avoir été confronté souvent à des entorses de la cheville, c'est très difficile à prévoir. Des fois, le gars ne boite pas et le lendemain, on se rend compte quand même que c'est plus grave que prévu. Des fois, il enfle très vite et une semaine après, il peut jouer. C'est très difficile à prévoir.
Alors, je vais en profiter, Arsène Wenger, pour vous demander ce que vous pensez du PSG qui est passé sous pavillon qatari en 2013 et notamment d'évaluer son projet, justement, pour Paris. Parce que c'est une politique sportive quand même qui est basée sur les stars, la plupart du temps étrangères. Bon, là, il y a Mbappé, évidemment, qui est le grand espoir français. Et des jeunes qu'on laisse partir, Kouassi encore, qui vraiment a des promesses de défenseur, il va au Bayern, Coman au Bayern aussi, Rabiot à la Juventus. Il n'y a pas de politique des jeunes. On a l'impression que, finalement, on n'aide pas au développement des jeunes.
Oui,
il y a quelques exceptions, bien sûr, mais elles sont rares.
Votre question appelle plusieurs développements. La première, c'est ce que je pense du PSG. Je pense que, d'abord, le Qatar a fait une très bonne opération en achetant le PSG, puisqu'ils l'ont acheté pour rien. Il faut leur reconnaître qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Je respecte ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas été petits. Ils ont mis vraiment les moyens. Je crois aussi qu'ils ont bien recruté sur l'ensemble depuis le départ. Ils avaient pris des bons joueurs avec Thiago Silva au départ, les Mota. Ils ont vraiment pris des très bons joueurs et des grands joueurs. Ils se sont bien renforcés par le système italien, surtout. Aujourd'hui, après Messi et Ronaldo, ils ont peut-être les deux meilleurs joueurs au monde dans leur équipe. La politique de star est nécessaire.
C'est-à-dire Neymar et Mbappé.
Donc, ils ont la chance d'avoir un potentiel extraordinaire. Après, honnêtement, je les trouve un tout petit peu moins forts qu'il y a 3-4 ans au niveau potentiel. Mais ils sont quand même encore dans la structure d'ensemble à tous les postes. Ils étaient peut-être un peu plus complets il y a 3-4 ans. Mais la concurrence était plus forte aussi. Je pense qu'il y a une chute globale du niveau européen de très 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 haut niveau. Et qu'ils sont quand même encore parmi les 2-3 meilleurs en Europe. Après, vous parlez des jeunes qui perdent. Je trouve que c'est une conséquence du fair play financier. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans un club comme le PSG, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas le mettre. Et pourtant, j'étais un grand défenseur du fair play financier. Mais pour être en accord avec les fair play financiers, aujourd'hui, des clubs comme le PSG, pour pouvoir payer leurs stars et garder leurs stars, ils sont obligés de faire de l'argent en vendant leurs meilleurs jeunes. Et ça, c'est quelque chose d'illogique. Quand j'étais entraîneur en France, pendant 10 ans, de 84 à 95, on était protégé avec nos jeunes. Quand ils signaient leur premier contrat pro, ils étaient obligés de donner 5 ans au club. C'était la contrepartie de la formation. Aujourd'hui, à 18 ans, les joueurs sont libres de re-signer ou de ne pas re-signer. Et il y a une inflation qui est anormale, parce qu'on paye des très grands salaires à des joueurs qui n'ont pratiquement pas joué. Et ils ont des demandes de l'étranger. On aboutit à un système assez paradoxal. C'est que vous parlez de Kouassi ou d'autres joueurs qui partent à l'étranger. Mais il se trouve que ces joueurs peuvent être formés en France, aller à l'étranger et revenir après acheter par le même club pratiquement qui les a formés à un prix astronomique. Ça, c'est absolument illogique.
Et vous allez pouvoir faire quelque chose au poste où vous êtes ben à
je pense que
Fédération Internationale.
Il y a que l'UEFA. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'industrie, une industrie ne doit pas fermer la porte aux investisseurs. Et le fair play financier est organisé de telle façon que vous n'avez aucun intérêt à acheter un club professionnel aujourd'hui. Si je suis multimilliardaire, je n'achète pas de club professionnel aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas mettre l'argent dans le club. Et quelque part, ça maintient la structure de la hiérarchie en place, puisque vous n'avez pas le droit d'investir dans les clubs. Il faut garder la bonne partie du fair play financier, qui est le contrôle de gestion et le contrôle des engagements des clubs envers leurs créditeurs. Mais il ne faut pas non plus qu'une activité aussi populaire empêche les gens d'investir de l'argent dans l'activité sportive.
Le temps passe vite avec vous, Arsène Wenger. On va marquer une deuxième pause publicitaire.
Europe 1, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Arsène Wenger, on aborde la troisième partie, mais on va finir quand même sur le Paris Saint-Germain, sur le fait qu'il domine totalement la France et qu'il est maintenant parmi les meilleurs clubs européens. C'est votre diagnostic par rapport à ce qu'on appelle le Final Eight, c'est-à-dire la prochaine finale de la Ligue des Champions au Portugal. Est-ce qu'il manque un rival en France au PSG ? L'Olympique de Marseille, l'Olympique de Lyon, Monaco, pour briller en Champions League ? Parce que finalement, tout se résume au PSG.
Oui, mais je ne pense pas pour briller en Champions League, parce qu'il ne faut pas trouver des fausses raisons au fait que le Paris Saint-Germain n'ait pas encore gagné la Ligue des Champions. Ça fait partie, des fois, même le Real Madrid ne l'a pas gagné parfois pendant 10-15 ans, puis d'un coup, ils l'ont gagné 3 fois de suite. Je pense que ce n'est pas le manque de compétition. Le manque de compétition joue, à mon avis, pour l'intérêt du championnat national. Parce que quand vous commencerez le championnat l'année prochaine, on se demandera tous qui va finir deuxième. Et ça, ce n'est pas normal. Et oui, donc je vous dirais pas nécessairement pour la Ligue des Champions, mais pour l'intérêt du championnat national. Parce que quand vous êtes supporter de foot aujourd'hui, vous avez des supporters qui ont, en gros, quand on détecte l'intérêt du football, le supporter, il a 3 intérêts. 1, il est souvent supporter de l'équipe nationale de son pays. 2, une caractéristique du supporter moderne, il a un grand club qui supporte, ça peut être le Barça, le Real, Arsenal, Manchester, peu importe, mais dans le monde. Et 3, il est supporter local. Il supporte l'équipe de son coin ou de son enfance où il est allé la première fois. Et on a vu qu'il y a un effritement du nombre de supporters locaux. Et il y a une demande du supporter. À la fois, il reste supporter de son équipe nationale puisque sa culture, son enjeu, son orgueil national qui est en jeu. Mais il y a une demande pour le football de haut niveau. Mais si nous ne faisons pas gaffe, il y aura un effritement des championnats nationaux parce qu'il y a un regroupement de l'élite par les grandes puissances financières dans les meilleurs clubs et un manque de concurrence locale. Ce qui fait que les gens s'intéressent beaucoup plus au top niveau, à ce qui se fait de mieux dans le monde et ont moins d'intérêt pour le local.
Mais le schéma que vous décrivez, avec ses conséquences, c'est d'arriver à une sorte de super championnat européen.
Et c'est bien le danger.
Qui va regrouper les 10-15 meilleurs clubs.
Écoutez, je vous donne un exemple que je connais bien, qui montre qu'il y a urgence pour d'aide. En Angleterre, il y a 92 clubs professionnels. Il y a 20 clubs en première ligue. Vous enlevez ces 20 clubs qui touchent des sommes énormes, il reste 72 clubs professionnels. Il y en a 65 qui perdent de l'argent. Et évidemment, ces 65 vivent avant tout des supporters locaux, ceux dont on parlait au départ du supporter local. Il y a un effritement du support local qui fait que les clubs d'une division en dessous sont à la fois sous la pression des clubs de première ligue parce que les salaires poussent à une inflation des salaires et en même temps à une diminution de leurs ressources parce que le support local s'effrite. Et le football aujourd'hui, le Covid a empiré cette situation, il est obligé de se poser la vraie question. Avons-nous la responsabilité de faire survivre tous ces petits clubs ? Est-ce que le professionnalisme va disparaître au niveau en dessous ? Mais ils ont aussi une vocation d'éducation et de formation des jeunes joueurs, tous ces clubs. Donc c'est une question à laquelle on ne pourra pas échapper, ni en France, ni en Angleterre, ni ailleurs.
Et rien ne dit que de toute façon, le Covid ou la Covid va disparaître. Et qui pèse, vous venez de le démontrer, sur l'équilibre économique des clubs de football, sur leurs ressources. Est-ce qu'il faut changer de modèle ? Parce qu'on ne sait pas quand cette crise sanitaire va s'arrêter.
Écoutez, sur les ressources, c'est assez simple. Le turnover total du football dans le monde est de 45 milliards. Nous savons à peu près à la FIFA que le manque à gagner va être de 10 à 15 milliards.
Donc, c'est énorme.
C'est énorme. Nous savons aussi que dans plus le club est petit, plus la masse salariale représente une part importante du budget. Ça va de 60 à 80%. Dans certains clubs, la masse salariale est de 80%. Donc il n'y a que la réduction des salaires au moins à titre temporaire
j'y arrivais,
qui peut résoudre le problème mathématique.
Plafonner les salaires.
Plafonner les salaires, j'y crois pas. Pourquoi ? Parce que c'est une fausse démocratie. Parce que le plafonnement des salaires va faire en sorte que Mbappé ou Neymar vont concentrer 90% des salaires disponibles et tous les autres vont jouer pour des peanuts. Et ça ne marche pas. Et on a l'exemple aux États-Unis où tu as le joueur vedette qui gagne 5 millions de dollars par an et le joueur qui est juste titulaire ou remplaçant, il gagne 5 000 dollars par mois. Ce n'est pas possible. Donc il faut garder le contrôle de gestion et ne pas créer des règles qui sont à la fois une incitation à la triche et contrairement à l'objectif espéré, une plus grande égalité des salaires, ça va créer une plus grande disproportion des salaires.
Mais ne faut-il pas réduire les renforts et imposer des quotas, par exemple, de joueurs formés au club ?
Je pense qu'il faut respecter le verdict de la compétition qui est de ne fermer la porte à personne et de n'imposer rien artificiellement. Il faut que les clubs dépensent l'argent qu'ils ont. Pour ça, le contrôle de gestion et le contrôle du management et par le fair play financier est extraordinaire. Et après, il ne faut pas créer des critères superficiels qui ne respectent pas ce qu'est l'essence même de la compétition. La compétition est, peu importe d'où je viens, peu importe quel est mon passeport, peu importe quel est mon âge, si je suis bon, je joue. Il faut faire à tout prix prendre conscience que nous devons respecter ces règles-là dans la haute compétition.
Pendant 22 ans, vous avez managé Arsenal. Dans ce nouveau concert des puissances que vous venez de décrire, le pays numéro un de loin qui domine sur tous les plans, c'est l'Angleterre. Comment expliquez-vous cette domination de l'Angleterre sur l'Europe ? Même sur l'Espagne, même sur l'Allemagne, même sur l'Italie, l'Angleterre ?
Bah écoutez, ce sont les résidus de l'histoire. Souvenons-nous que l'Angleterre a dominé le monde et que l'intérêt du championnat anglais vient de là. De l'Australie jusqu'en Chine, tout était anglais. Et aujourd'hui, regardez les audiences, elles sont là. Les États-Unis parlent l'anglais. L'intérêt pour le championnat anglais vient de leur histoire.
Tout le Golfe parle anglais, l'Asie
parle
anglais.
C'est, exactement.
Il nous reste l'Afrique.
Et encore que quand vous allez en Afrique du Nord, Charles, dans la plupart des pays, même du Moyen-Orient, ils supportent tout certains ou le Real ou le Barça. Il y a un gros intérêt pour...
En Afrique, beaucoup.
En Afrique, pour le championnat espagnol.
Absolument.
Mais l'histoire de l'Angleterre fait en sorte qu'il y a un intérêt pour le championnat anglais, qui est historique, et la conséquence de ça, c'est que les télés payent beaucoup d'argent pour évidemment avoir ces matchs-là, parce qu'il y a un intérêt mondial.
À Arsenal, vous avez... Moi, j'en ai été témoin. Je venais souvent voir Arsenal jouer. Et vous avez révolutionné les méthodes d'entraînement, la diététique des joueurs. Et c'est vrai qu'il faut vous reconnaître un statut de pionnier sur ce plan-là, un précurseur. Qu'est-ce que vous retenez de ce long passage anglais, 22 ans ? Quelle est votre vision de l'entraîneur ? Est-ce que ça a joué beaucoup sur la vision que vous avez et que vous aurez, en tout cas, parce que est-ce que vous n'avez pas la nostalgie à l'égard de cette période ?
Ben, écoutez, moi, j'ai ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pu exercer le métier sur les trois plans que j'estime absolument une chance incroyable. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'impact sur le club a disparu. Aujourd'hui, le manager à l'anglaise est devenu un entraîneur à la française, c'est-à-dire il essaye de gagner le prochain match et de s'occuper de son équipe et du progrès de ses joueurs. L'impact sur le long terme dans le club a disparu. Il est dans d'autres mains.
À ce point ?
Ah oui, totalement. Il est dans d'autres mains. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des directeurs sportifs pratiquement dans tous les clubs, des gens. Tu n'as plus d'entraîneur qui négocie les transferts. Moi, j'ai fait 450 transferts pendant mes 22 ans à Arsenal. Aujourd'hui, les entraîneurs ne négocient plus de contrats. Ce n'est plus entre leurs mains. Donc, le métier a évolué à ce niveau-là. Et l'entraîneur est devenu aujourd'hui une forme de société avec autour de lui des adjoints, des analystes, des préparateurs physiques et une société qui signe un contrat avec un club et dès que les résultats ne sont plus là, cette société est dissoute et elle part ailleurs.
On va voir si vous avez toujours envie d'entraîner, de revenir sur le terrain parce que le terrain vous manque. Moi, je vous ai vu évoluer pendant des années par rapport à l'intérêt que vous portiez au terrain et c'est quand même une grande partie de votre vie, Arsène Wenger. Troisième pause publicitaire.
Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Arsène Wenger, est-ce que vous voulez à nouveau entraîner ?
Écoutez, tous les jours, j'ai envie d'entraîner. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai humé l'herbe tous les matins. Et aujourd'hui, je suis plus dans des ambiances feutrées, administratives et dans des bureaux. Donc évidemment, je me sens un peu un intrus là-dedans. Mais en même temps, est-ce qu'il faut que je retourne sur le terrain ? Oui, j'en ai envie, je vous le dis carrément. Mais est-ce que je ne vais pas faire le combat de trop ? J'ai 70 ans, j'ai beaucoup donné. Et est-ce que je ne jouerai pas un peu à la roulette russe, même au niveau santé ? Parce que je ne peux pas faire les choses à moitié. Donc, je me pose un peu la question. J'ai envie encore, énormément. Je pense que ce sera jusqu'à mon dernier jour. Mais en même temps, ce sera dans des conditions que j'estime optimales, sinon je ne le ferai pas.
Mais présider un club, c'est possible ?
C'est possible, oui.
On vous a d'ailleurs...
Je pense honnêtement qu'il y a un vrai déficit de connaissance du sport de haut niveau dans beaucoup de grands clubs. Et qu'aujourd'hui, l'analyse du jeu... Et je veux créer à la FIFA justement un centre d'analyse le plus performant au monde. Je sais que c'est très ambitieux, mais vous verrez qu'à la Coupe du Monde en 2022, on produira des analyses de matchs qui seront extrêmement performantes. Et je suis en train, en ce moment, d'embaucher pas mal de monde à ce niveau-là. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la façon dont nous voyons le football.
Vous avez été coach à Monaco et surtout aussi à Nagoya au Japon. On l'ignore un peu, en tout cas on l'a oublié un peu.
Moi, je ne l'ai pas oublié.
Et moi, j'ai pu constater que vous avez tiré des enseignements assez intéressants, justement, des rituels japonais, des méthodes et de la mentalité japonaise.
Oui, ça m'a permis... quand je suis parti au Japon, j'avais fait 10 ans en Europe, donc à sortir d'une période assez trouble. Donc, je suis allé au Japon et ça m'a permis de prendre du recul par rapport à l'Europe. et de voir un pays extrêmement organisé, avec le souci de bien faire. Justement, le Japon est un bel exemple, parce que c'est peut-être, avec l'Europe, le pays le plus organisé dans sa structure et dans son développement du jeu. Et d'ailleurs, quand on les voit aux Coupes du Monde, ils ont failli sortir la Belgique, ne l'oublions pas. Ils menaient 2-0 à 20 minutes de la fin du match. Et c'est le seul pays asiatique qui, aujourd'hui, peut vraiment prétendre à quelque chose à la Coupe du Monde. Mais c'était une expérience fantastique parce que les Japonais veulent bien faire. Et ils essayent toujours de donner le maximum. Il y a une envie, un enthousiasme pour contribuer au collectif. Ce sont naturellement des gens faits pour faire un sport collectif. Et ce sont naturellement des gens qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et quand tu viens parfois de gens qui sont un peu trop d'un pays où les gens sont parfois un peu trop gâtés, ça a été une expérience extrêmement rafraîchissante pour moi.
On l'a vu au rugby aussi, à la dernière Coupe du Monde.
On l'a vu au rugby dans la dernière Coupe du Monde. D'ailleurs, j'y ai été à la Coupe du Monde, aux demi-finales, finales, et ça a été un grand succès.
Alors maintenant, vous avez fait connaissance de la FIFA, cette fédération mondiale qui couvre absolument l'ensemble du jeu de football dans le monde. Quelles réformes vont porter, compte tenu de vos responsabilités importantes sur la direction du jeu, la marque d'Arsène Wenger ? Hors-jeu, VAR, renfort, remplacement, fair-play financier ?
Bon, la marque qui me plairait... Il faudrait d'abord rappeler quelle est la vraie mission de la FIFA. Je pense qu'elle est aussi à plusieurs niveaux. La première, c'est le garde des règles du football et de l'évolution des règles du football. C'est un organisateur des compétitions mondiales, qu'il y a quand même 211 fédérations qui sont affiliées à la FIFA. Et puis, la FIFA pense qu'elle a une mission éducative. Moi, je suis responsable de la mission éducative, c'est-à-dire celui qui permet à tous les pays de se développer à ce niveau-là. Et je suis en train d'analyser actuellement, j'ai des gens qui vont dans tous les pays, qui analysent tous les besoins de chaque pays, des 211 pays, moins l'Europe qui a fait 52 pays. Donc c'est quand même énorme. Nous aurons un rapport à la fin de l'année et nous agirons en conséquence pour développer le football dans tous les pays.
Et quelle sera quand même la première réforme que vous allez...
La première réforme pour moi, c'est de créer un centre de recherche de développement du football, d'analyse et de développement du football. Je participe aussi à l'amélioration des règles du jeu. Notamment, je suis en train de faire une expérimentation sur la règle du hors-jeu, puisque vous avez très bien vu que le VAR a créé à la fois des problèmes de durée de décision et aussi des problèmes de...
C'est la vidéo, hein, le VAR.
C'est la vidéo, l'analyse vidéo, oui. Et aussi des problèmes de justesse de décision. Donc, nous sommes en train d'expérimenter une évolution des règles au niveau du hors-jeu, notamment. J'ai beaucoup d'idées pour... qu'il faudrait pour améliorer le jeu. Je pense que nous vivons dans une société qui a moins de patience, qui a plus envie d'aller d'une chose à l'autre très très vite, qui veut plus de spectaculaire. Et donc la réflexion que nous devons avoir est à la fois basée sur comment pouvons-nous rendre le jeu plus rapide, comment pouvons-nous rendre le jeu plus spectaculaire, plus facile à regarder pour les gens. Parce que même quand on regarde les audiences télévision, il est surprenant de voir qu'il y a peu de gens qui regardent 90 minutes sans se détacher de l'écran. Ça part et ça vient. Donc il y a une réflexion sur le long terme. Et c'est comme toujours quand un sport est extrêmement populaire. Est-ce qu'on accompagne et on ne fait que réagir quand les gens ne vous suivent plus ? Où est-ce qu'on anticipe l'évolution de la société et on essaye de changer les choses avant qu'il y ait un désintérêt.
Et vous connaissant, vous ?
Moi, je suis plutôt pour l'anticipation. Mais l'anticipation veut dire aussi prise de risque. Et évidemment...
vous en avez pris pas mal dans votre carrière.
J'en ai pris pas mal, mais le football, quand vous êtes dans quelque chose qui marche, il y a quand même une réticence à changer les choses. Puisque les gens vous répondent toujours pareil. Pourquoi changer quelque chose qui marche ?
Alors, beaucoup de mes camarades qui aiment le football, et sachant que nous étions en entretien et que vous aviez accepté justement de répondre à de multiples questions que je vous ai posées, Arsène Wenger, voudrais connaître votre avis sur les 5 ou 6 meilleurs joueurs du monde et quelles étaient leurs caractéristiques.
Vous savez, quand vous résumez le football à sa plus simple expression, c'est accueillir le ballon, maîtriser le ballon, prendre une décision et exécuter votre décision.
Et le meilleur pour ça ?
J'allais ajouter une quatrième dimension que j'ai faite dans ma dernière année avec une université norvégienne où nous avons développé « Mais que se passe-t-il avant l'accueil du ballon ?»
Et c'est bien norvégien, ça.
Oui. Et c'est un gars qui avait lu une interview de ma part parce que j'avais dit que celui qui voit vous fait gagner. Mmh. Et nous sommes mis à table et nous avons décidé d'analyser que fait un joueur dans les 10 secondes qui précèdent la réception du ballon. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tout se joue là. C'est que les très grands joueurs analysent 6 à 8 fois, prennent l'information avant de recevoir le ballon.
Et quels sont les meilleurs ?
Ben écoutez, les meilleurs, on les connaît tous. Hein. Quand vous regardez l'histoire du football français, ça a commencé par Platini. Vous regardiez jouer Platini, il avait la tête qui tournait comme un radar. Et les bons joueurs, 4 à 6 fois, prennent l'information 4 à 6 fois. Et les très grands joueurs, 6 à 8 fois, dans les 10 secondes avant la réception du ballon. Ce qui influence la façon dont ils reçoivent le ballon, ce qui influence la décision qu'ils vont prendre, et ce qui influence la qualité de l'exécution, les grands joueurs l'ont.
Et que diriez-vous de Zidane aujourd'hui ?
Ben, c'est un grand joueur. Je pense que Zidane, pour moi, hein, en dehors de sa classe naturelle de joueur et son humilité hyper respectable quand on a connu tous les succès qu'il a connus, c'est en même temps, il a été touché par une fée magique à sa naissance. Parce que tout ce qui touche, il le transforme en or. Donc...
Mais vous aviez une définition, je me souviens, un soir à Londres, vous aviez dit « Zidane, le ballon est son ami ».
Oui, c'est le but du football. C'est de faire du ballon, d'où qu'il vienne, qu'il devienne votre ami et pas votre ennemi. Il y en a qui se battent avec le ballon, mais les gens comme Zidane en font leur ami.
Il y a d'autres joueurs aussi aujourd'hui,
évidemment,
par exemple.
Il y a les Messi, Ronaldo, il y a eu Beckenbauer, Pelé, Garrincha. Donc il y a énormément de grands joueurs dans l'histoire du football qu'on oublie. Et derrière, on parlait de Mbappé et Neymar qui ont peut-être...
Mbappé ?
Oui, moi j'y crois énormément. Je pense que... Il faut évidemment, je pense qu'on l'oublie très très souvent, quand on parlait à l'instant de Ronaldo Messi, moi j'ai joué en 2006 une finale de Ligue des Champions, Messi était blessé, mais il était déjà là, il n'a pas pu jouer la finale, mais il était déjà là. Nous sommes aujourd'hui en 2020, ça fait 14 ans, on oublie combien la santé joue un rôle déterminant de la réussite des grands joueurs et combien la continuité de la présence est importante. Le haut niveau ne souffre pas de in et out. Il faut être présent de façon permanente. Et ces gars-là ont une santé, Ronaldo, Messi, extraordinaire. Elle est presque insolente. 14 ans de très très haut niveau, sans aucune absence, c'est incroyable.
Alors, comme toutes les civilisations à Arsène Wenger, le football est mortel. Est-ce que sa popularité peut décliner ? Est-ce que ses audiences peuvent-elles chuter ? Est-ce qu'il faut craindre pour le football compte tenu de l'accès vertigineux de l'argent qui s'y engouffre ?
Moi, personnellement, je crains. Alors, je vous rétorquerai l'inverse. On pourrait se poser la question, pourquoi le football est populaire ? Et à mon avis, pour trois raisons. La première, c'est qu'il ne faut aucun argent pour jouer au foot. On a tous joué dans la rue avec des buts, avec deux pierres et un chiffon. Comme ballon, on a joué. La deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il est populaire ? Il n'élimine pas par statut corporel. Que vous soyez grand ou petit, mince ou un peu plus costaud, si vous êtes bon, vous jouez. Et troisièmement, c'est peut-être le sport collectif le plus imprévisible. Si vous êtes à Suresnes et vous jouez contre le PSG, les supporters de Suresnes peuvent rêver toute la semaine qu'ils vont battre le PSG. Ce qui n'est pas le cas dans aucun autre sport collectif. Ça n'existe pas. Donc, je pense quand même qu'il a encore un bel avenir.
Je vous souhaite aussi un bel avenir, Arsène, à la FIFA et peut-être en dehors de la FIFA. Merci de ce grand entretien et à très bientôt, j'espère, Arsène Wenger.
Merci à vous.
Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1, recevait Arsène Wenger. Un entretien à retrouver sur europe1.fr. La semaine prochaine, c'est l'ancien conseiller et sherpa de Jacques Chirac, Maurice Gourdeau-Montagne, qui sera au micro de Charles Villeneuve. À suivre sur Europe 1, en balade avec Frédéric Taddeï, Bartabas sera son compagnon de route ce matin jusqu'à 12h30. Et avant de retrouver l'information de 11h, eh bien nous partons à Londres avec The Clash. Retour en 1979, London Calling. Bonnes vacances et merci d'écouter Europe 1.